Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, après avoir cherché à cultiver en nous la vertu de prudence, il faut que nous fassions attention à cultiver la vertu de justice. La vertu de justice est très importante. C'est elle qui nous rend honnêtes, qui fait des hommes honnêtes. Elle est très importante par rapport à l'idéal que nous poursuivons. C'est vraiment elle qui est en jeu aujourd'hui dans les épreuves et qui va nous diriger, puisque les autorités de l'Église ne nous dirigent plus, puisque les autorités civiles ne nous dirigent plus, c'est à chacun d'entre nous de diriger sa vie, et la vertu de justice va nous permettre d'être à la hauteur, d'accomplir ce que Dieu attend de nous. La première question que saint Thomas pose à propos de la justice, c'est son objet. Quel est l'objet de la justice? C'est très important, cela. C'est un principe général. On ne part pas au petit bonheur la chance, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Que ce soit en éducation, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans les rapports avec les modernistes, très souvent on part au petit bonheur la chance. On se justifie soi-même. Il est donc important de savoir quel est l'objet de la vertu de justice, parce que cela la définit et qu'on ne peut pas tricher avec cela. L'objet de la justice, c'est le droit. Ne craignez pas, mes bien chers frères, que je vous emmène dans des considérations juridiques qui seraient trop élevées pour nous, pour vous. Non, le droit que je vais vous exposer est à la portée de tout le monde. Non seulement il est à la portée de tout le monde, mais tout le monde doit le connaître, le désirer et l'accomplir. Je sais que quelquefois le droit a mauvaise réputation, mais c'est parce qu'on a triché avec lui. Ceux qui donnent mauvaise réputation au droit sont en réalité des tricheurs qui ne respectent pas le droit. Comment saint Thomas prouve-t-il que le droit est l'objet de la vertu de justice? D'une façon très simple, par des comparaisons. Vous prenez l'exemple d'une porte. La porte doit fermer un passage. Vous avez un passage de 90 cm. Il va falloir que la porte occulte les 90 cm, parce que sinon, le vent va passer, où les petites bêtes vont entrer dans la maison. Alors vous fabriquez une porte, et puis vient le moment décisif où vous la posez, et vous dites, ah c'est bien, elle s'ajuste bien comme il faut. Elle s'ajuste, elle est juste. C'est-à-dire qu'elle correspond à ce que vous attendiez d'elle. Cette porte est droite, elle n'a pas de gauche. Si elle avait du gauche, eh bien, elle ne plaquerait pas. Mais comme elle est bien droite, elle plaque bien. Ainsi en va-t-il des hommes qui doivent s'ajuster aux situations. Je ne prendrai pas l'exemple trivial de rouler à droite lorsqu'on est en voiture, encore que ce soit un exemple bien clair qui nous montre que chacun doit être à sa place, sinon il y a de gros problèmes. Mais vous comprenez qu'à partir de ces exemples, on peut monter plus haut et voir qu'il y a dans les rapports entre les hommes des choses qui sont droites et d'autres qui ne le sont pas. Ainsi, l'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre pour engendrer des enfants, cela est droit. Prétendre mettre ensemble deux hommes ou deux femmes pour constituer une famille, ça n'est pas droit, et donc ça n'est pas juste, ça ne s'adapte pas. On ne peut pas faire une famille avec cela. Comme ce n'est pas juste, comme ça n'est pas adapté, ça n'est pas droit, donc ce n'est pas l'objet de la vertu de justice, c'est injuste. Par contre, un homme et une femme ensemble, cela est juste. On pourra même aller un peu plus loin et voir que pour qu'un homme et une femme soient bien adaptés à la vie de famille, si l'un des deux est catholique, il faut que l'autre soit catholique, sinon ça n'est pas adapté. Que vous laissiez deux païens ensemble pour se marier, c'est normal, ils sont païens. Vous ne pouvez pas exiger qu'ils donnent plus que ce qu'ils ont reçu. Mais lorsque vous avez un catholique, il est normal, il est juste, pour qu'il éduque des enfants de façon catholique, qu'il ait un conjoint catholique. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'Église a fait une loi à ce sujet, parce que cette adaptation, cette justice est très importante et ne peut pas être laissée à l'initiative personnelle, à la simple décision des particuliers. On voit par là deux choses. Tout d'abord que la justice nous ordonne, mais de l'ordre, par rapport à des réalités extérieures à nous. La vertu de tempérance met de l'ordre en nous par rapport à nous-mêmes. La vertu de force met de l'ordre en nous par rapport à nous-mêmes. Même si l'une et l'autre sont mises au service de la société, nous verrons cela, c'est un ordre intérieur, un petit peu comme celui qui a un pied beau va se faire soigner pour marcher droit. La vertu de justice, elle, nous oriente par rapport à l'extérieur. Et cet extérieur ne dépend pas de nous. Il ne dépend pas de nous, il ne dépend pas du menuisier quand on l'appelle pour faire la porte, que l'ouverture soit de 92, 95 ou 97 cm. L'ouverture est là et on lui dit « Monsieur, veuillez me faire une porte qui s'ajuste. » Il ne dépend pas de nous que l'homme soit homme, que la femme soit femme et que l'homme soit fait pour fonder une famille avec la femme. Ça ne dépend pas de nous. On pourra dire tout ce qu'on veut, ça n'est pas à notre pouvoir de changer les choses. Et la deuxième réalité importante, quand on parle de la vertu de justice, c'est qu'elle nous oriente par rapport à des réalités supérieures avant de nous orienter par rapport à notre prochain. Quand on pense justice, on pense très facilement égalité dans les contrats, paiement des dettes, réparation des dommages. On peut penser également à ce qui se passe au tribunal, dans lequel vous avez des particuliers qui sont devant monsieur le juge. Mais tout cela est une vue très partielle de la justice. La justice nous met à notre place. La justice nous ajuste par rapport à autrui. Et la première réalité par rapport à laquelle nous devons nous ajuster, ce sont les réalités supérieures. Alors Dieu d'abord, et il y a une justice envers Dieu qui s'appelle la religion. Nous verrons qu'elle est un peu particulière, évidemment, parce que Dieu est particulier. Parce que Dieu est infini et que nous ne le sommes pas. Il y a une justice dans la famille, elle aussi est particulière parce que la société familiale est une société dans laquelle il y a des enfants mineurs. Et elle nous ajuste par rapport à la société civile. Alors là, je touche un grand domaine, un grand problème presque, parce que pratiquement plus personne ne sait ce qu'est une société. L'esprit démocratique a tout faussé, et avant lui, on avait perdu vraiment l'idée du bien commun. Disons qu'il s'agit d'un idéal. Et si on prend l'exemple de l'Église, cela nous est plus facile de comprendre, surtout nous traditionalistes, à qui Mgr Lefebvre a beaucoup montré ce qu'est l'Église et la nécessité de l'Église pour vivre notre idéal de vie chrétienne. Il nous a montré que la vie chrétienne vécue tous ensemble, c'est cela l'Église. Et la vertu de justice, vous disais-je, nous oriente par rapport à des réalités supérieures. C'est exprès que je dis réalité et non pas vérité, parce que nous ne sommes plus dans la vertu de prudence, qui est une vertu intellectuelle. Nous sommes par rapport à des réalités, des choses qui existent. Je pourrais dire des biens. Des biens, je vais vous l'expliquer après. C'est un terme qui a besoin d'être défini. Bien, c'est ce qui est bien, le bien. Mais ces biens sont des réalités, c'est-à-dire des choses qui s'imposent, qu'on ne peut pas faire autrement qu'elles sont. Et donc, vous disais-je, la vertu de justice nous oriente par rapport aux réalités supérieures, elle nous lie au bien supérieur. Le premier bien supérieur, c'est la foi. La vertu de justice nous oriente vers la foi et nous lie à la foi. Elle nous lie à la charité, à l'amour de Dieu. Et si on descend dans les applications pratiques, la vertu de justice nous met à notre place dans l'Église et c'est elle qui, dans les épreuves actuelles de l'Église, la dérive terrible des hommes d'Église aujourd'hui va nous maintenir à notre place malgré eux. C'est vous dire si cette vertu est importante. Il y a un droit, il y a des choses justes qui sont ce qu'elles sont, même lorsque le pape dit et fait le contraire, même lorsque les évêques disent et font le contraire, même lorsque un monseigneur Felet prétend dominer la fraternité Saint-Pédis et la conduire où il lui plaît, les membres de la fraternité Saint-Pédis, les simples chrétiens, restent ordonnés par la nature des choses au bien de l'Église et cela ne dépend pas de Mgr Felet, ni des évêques, ni du pape. C'est vous dire à quel point il est important de former en nous une véritable justice, et cela suppose un grand idéal, parce qu'étant donné qu'il faut que nous soyons à notre place par rapport aux réalités supérieures, nous ne pourrons nous adapter à elles que si nous les aimons. Il est évident que si je n'ai pas d'intérêt à ce que je fais, je ne vois pas pourquoi je le ferai. Si le menuisier fait la porte, c'est qu'il a un salaire. Mais s'il s'agit de la chambre des enfants, le papa va bricoler dans la chambre des enfants et déjà il le fait avec beaucoup plus d'intérêt parce que ce sont ses enfants. Lorsqu'un religieux fait la porte d'une église, il travaille pour Dieu. Et l'amour qu'il a de Dieu, parce que la justice est liée à l'amour, l'amour qu'il a de Dieu va lui faire faire des splendides portes qu'on ne trouve pas dans les simples maisons d'habitation, parce qu'il n'y a aucune raison d'aimer une maison d'habitation autant qu'on aime une église, et ainsi de suite. Et si nous avons un grand amour de Dieu, alors nous allons nous ajuster à l'Église, à l'idéal de l'Église. Et c'est tout l'enthousiasme que Saint Ignace nous rappelle dans ses exercices, avec l'appel du Christ-Roi et avec les méditations sur la vie de Jésus à Nazareth, puis après ça sur la Passion, puis après ça sur le triomphe de notre Seigneur dans la résurrection et le triomphe au ciel. Alors j'arrête ici pour cette fois-ci, mes bien chers frères. Demandez à Dieu la vertu de justice, cultivez-la, et j'espère que ce sermon aura donné aux parents conscience, ou au moins un début de conscience, de la grande responsabilité qui est la leur, de former à la justice, c'est-à-dire à l'amour de l'idéal, les enfants qui leur sont confiés. En tout cas, nous, prêtres, nous avons reçu cette mission de vous former à la justice, et comptez sur moi pour tout faire afin d'accomplir mon devoir, vous former à la vertu de justice, vous apprendre à prendre vos responsabilités, à assumer vos responsabilités, à accomplir vos responsabilités jusqu'au bout, même malgré les autorités et même sans nous. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.